supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Aujourd'hui, ce sera la troisième chronique autour de la santé. Il y a sur notre territoire un manque évident de praticiens. Nous sommes dans ce que l'on appelle un désert médical. Il nous manque clairement des médecins généralistes, des médecins spécialisés, des dentistes, voire même des auxiliaires médicaux du style kiné, infirmière, je ne crois pas, orthophoniste, je n'ai pas toute la liste, mais bon.
Je rajouterai une spécialité, bon, il y a deux spécialités, il y en a une, mais c'est nationale, c'est les dermatologues, et une autre, qui sont les ophtalmologistes en Tarn-et-Garonne, c'est balèze pour avoir un rendez-vous.
Donc, mais pourquoi en sommes-nous là ? On a bien compris que sur notre secteur, beaucoup de praticiens sont arrivés à l'âge de la retraite. Et les nouvelles générations de toubibs ne sont pas assez nombreuses pour compenser ces départs. Pourquoi ? Ce phénomène est notamment dû au niveau insuffisant du numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants en médecine autorisés à accéder à la deuxième année, système qui avait été mis en place en 1971. Y aura-t-il eu un manque d'anticipation des politiques successives sur la démographie de notre pays ? Pour les patients, ceci se traduit par des difficultés croissantes à trouver un médecin traitant, d'obtenir un rendez-vous, et même des consultations sans rendez-vous sont aujourd'hui impossibles. Alors, les malades, ils vont où ? Quand on est malade, même pour des médicaments, on va aux urgences. Pour remédier à cette situation, une réforme globale des soins de proximité avait été prévue. Le plan d'accès aux soins, tout simplement, voilà comment ça s'appelle, présenté en octobre 2017 par Édouard Philippe et la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Buzyn. Le premier ministre de l'époque disait « L'objectif de ce plan est donc de faciliter l'initiative territoriale qui touche au quotidien des Français et de libérer enfin les énergies pour permettre l'accès de tous à des soins de qualité. » Bravo ! Ce plan proposé, et propose toujours d'ailleurs, un panel de solutions adaptables à chaque territoire entre autres. La mise en œuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances, donc apparaît de plus en plus la téléconsultation, puis une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante, pérenne et continue et faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le cadre d'une responsabilité territoriale. Donc on voit apparaître depuis quelques années quelques, et au compte-gouttes, des maisons de santé ou centres de santé avec l'appui de la Sécurité sociale et de l'ARS. Les avancées et les difficultés ont été mises au jour pendant les deux années de la pandémie. C'est pour cela que je ne reviendrai pas sur les années 2020-2021, gestion de la crise, masques, confinement, vaccins, parce que là, ça devient de plus en plus compliqué. Non, je reprends à aujourd'hui, alors qu'arrive la stratégie Ma Santé 2022. Pour donner un nouvel élan à cette dynamique et politique de soins de 2017-2018 à aujourd'hui, avec la mobilisation bien sûr des acteurs de terrain pour continuer à favoriser une meilleure organisation des professionnels de santé qui devront travailler ensemble et mieux coopérer au service de la santé des patients et surtout après l'expérience des deux années Covid. Donc, nous avons un parcours de soins à suivre. Tout va bien quand on rentre dans le protocole de soins. Mais avant, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout en milieu périurbain ou en milieu rural. Donc, revenons sur nos communes du Tarn-et-Garonne, et plus particulièrement sur notre communauté de communes Terre des Confluences. Aujourd'hui, je reçois un invité qui va pouvoir nous parler plus particulièrement de ce qui nous concerne et de ce qui se passe sur notre territoire. Bonjour monsieur Xavier Prévedello.
Bonjour.
Voilà. Donc, nommé à la Commission Santé et lutte contre la désertification médicale au sein du Conseil communautaire de Terre des Confluences, mais vous êtes également maire de Saint-Porquier.
Tout à fait.
Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de pouvoir nous éclaircir sur le rôle que vous avez à ce jour en tant que conseiller délégué à la coordination et animation du contrat local de santé, CLS, d'ailleurs qu'est-ce que c'est ? Et à cette place néanmoins difficile de promouvoir le territoire pour l'installation médicale. Donc, je vous pose cette question, en quoi consiste votre poste et que pourriez-vous nous dire sur la situation actuelle dans nos 22 communes par rapport à cette désertification médicale ? Terme, j'ai cru comprendre en ayant peu parlé avec vous, mais un petit peu, que vous n'aimez pas trop. Donc, je vous laisse la parole.
D'accord, bien y va. Donc, en fait, j'ai été nommé par le président Dominique Briouat, conseiller délégué en charge de la présidence de la commission santé de la communauté de communes. Donc, nous avions comme feuille de route la mise en œuvre du contrat local de santé version 2, avec en même temps la mise en œuvre du conseil local santé mentale, dont on a vu aussi l'importance et l'émergence suite à la crise sanitaire que nous venons de vivre. Et ensuite, effectivement, en concernant la désertification médicale, un cheminement personnel de groupe au sein de la commission, avec les techniciens qui nous accompagnent. C'est vrai que nous sommes plutôt orientés sur une attractivité du territoire plutôt que de continuer à qualifier le territoire de désert médical, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, ils sont nombreux. Et en fait, c'est aussi mettre en avant les qualités et ce que l'on peut trouver comme avantage à venir s'installer sur Terre des Confluences, sur Moissac, sur Castel, quels sont les avantages que présente aussi le territoire. Vous parliez d'émergence de maisons de santé publiques et de centres de santé publiques. Effectivement, voilà, la communauté de communes a investi lors du précédent mandat dans une maison de santé à Saint-Nicolas, qui fait partie d'un groupement aussi avec qui est extérieur à la communauté de communes, à La Vitte et Beaumont. Mais aussi, il y a d'autres maisons de santé multisites qui existent, que ce soit sur Castel-Sarrazin, sur Moissac et ailleurs. Mais aussi la création quand même d'un centre de santé publique sur les trois communes de Castel-Sarrazin, Saint-Porquier et La Vitte-Dieu. Donc en fait, la différence entre une maison de santé et un centre de santé, c'est qu'une maison de santé, ce sont des médecins et des paramédicaux qui exercent sur un exercice libéral. Le centre de santé, c'est plus un exercice salarié.
D'accord.
Voilà. Et donc, en fait, moi, je suis parti clairement sur l'idée qu'il fallait aller au-delà des clivages politiques sur le territoire et ne pas se servir de la santé comme un outil, quoi. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et que je valorise. En fait, moi, ce qui est intéressant et ce qu'on a essayé de mettre en valeur au sein de cette commission, c'était de rendre attractif le territoire par rapport à sa pluralité d'exercices. C'est-à-dire qu'un médecin qui vient s'installer sur le territoire, ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il puisse choisir son mode d'exercice, qu'il soit libéral, salarié par une maison de santé publique ou salarié à l'intérieur d'un centre de santé publique. Voilà, nous, c'était vraiment cette variété d'exercices qui nous paraît le plus important.
Le fait, c'était de trouver sur n'importe quel moyen ou choix, en tous les cas, du médecin formé, de trouver soit il est libéral, soit donc il est salarié.
Qu'il ait le choix. Et en plus, l'action de l'attractivité territoriale va au-delà aussi de cette question vraiment de comment va venir exercer le médecin. C'est-à-dire que l'attractivité territoriale, c'est aussi la question de on accueille la famille. On accueille le conjoint, la conjointe, on accueille les enfants, on accueille tout le monde. Et c'était cette question-là. C'est pour ça que la question de désert médical ne me convient plus, même si c'est une réalité. Attention, je ne remets pas en question. C'est une réalité, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Et je trouve que traiter à partir de l'attractivité et de mettre en avant ce qui est positif, c'est-à-dire qu'en fait, Terre des Confluences, quand même, lorsqu'on reprend tout ce qui s'y passe de positif et d'agréable, ça part du tourisme. C'est-à-dire comment on vient visiter le territoire jusqu'à le développement économique, comment on s'y installe, comment on y investit. Et dans ce prisme-là, ce qui nous intéressait à nous, c'était de voir un petit peu comment on intègre les médecins, les conjoints, les familles. Voilà.
Et ma question, c'était, mais comment trouver ces médecins? Comment ça se passe? Alors, avant, bien sûr, de leur proposer cette attractivité territoriale, comment vous les choisissez? Comment vous pouvez, enfin, comment vous avez accès? Est-ce qu'ils ont un site où ils s'inscrivent ou...
Il y a plusieurs pistes à ça. Il y a des startups. Nous, les chasseurs de têtes, c'était pas trop ce vers quoi on souhaitait aller. Mais quand même, il existe des dispositifs qui sont vraiment intéressants pour ça, que ce soit via des plateformes qui permettent à des médecins généralistes et spécialistes de venir faire des remplacements sur le territoire. Et c'est à partir de là qu'on peut aussi proposer le panel de ce qui peut se faire, que ce soit culturel, que ce soit et autre, quoi, touristique, qu'on peut proposer sur le territoire afin de les inciter à s'installer. Et puis, bon, voilà, puis il y avait quand même aussi la question, et je reviens dessus, sur la question du mode d'exercice. Que ce soit un exercice libéral, un exercice salarié ou même mixte. En fait, voilà, nous, vraiment, ce qu'on veut montrer, c'est que le territoire est dynamique et, en fait, il a une offre, un panel d'exercices multiples.
D'accord. Et donc, pour chaque commune, enfin, en tous les cas, pour chaque élu, il peut aller donc se renseigner, voir sur cette plateforme aussi, ou comment... matériellement, je veux dire,
aujourd'hui, ce sont des choses qui sont quand même, quoi, en construction. Voilà, on est vraiment à l'ébauche de...
Ah oui, d'accord, c'est pas encore appliqué.
De ce travail, non, vraiment, voilà. D'accord. Mais ce sont des choses qu'on veut mettre, c'est un projet qu'on veut mettre en œuvre très rapidement, quoi.
D'accord. Alors, justement, puisque vous êtes élu aussi de la communauté maire par la même occasion, j'ai pu lire dans le plan d'urbanisme intercommunal, le PLUI, consultable, voilà, le PLUIH, oui, excusez-moi.
Habitat.
Qui est consultable sur le site de la communauté de communes Terre des Confluences, qu'il y avait aussi par extension un projet d'aménagement et de développement durable qui devrait renforcer justement l'attractivité démographique du territoire en visant une croissance de population de l'ordre de 9 000 à 10 000 habitants de plus. Cela permettrait d'atteindre près de 50 000 habitants sur le territoire à l'horizon 2030. C'est ce qui est mis dans ce fameux rapport. Et à ce jour, nous sommes à peu près 42 000 habitants. 41 878, je crois. Voilà, mais c'est des chiffres de 2020 ou 2019.
De toute façon, tu n'auras pas de nouveaux chiffres, puisqu'il faut attendre qu'il y ait un nouveau recensement pour qu'on ait...
Je vous fais confiance.
Donc, l'un de ses objectifs veut augmenter, donc, Monsieur Prévedello, la population. Il est dit dans le rapport que cela permettrait de conforter le positionnement régional des 22 communes de Terre des Confluences au sein de l'Occitanie. Mais qu'il faudra quand même prévoir la production d'environ 300 logements neufs par an en moyenne. Mais c'est très bien tout ça, mais il n'y a pas que les logements et les infrastructures. Comment faire ce bon plan d'attractivité si on ne peut pas répondre aux besoins de la population en termes de santé, celle du quotidien, avec des médecins, des centres médicaux ou des maisons médicales, j'ai bien compris, voire le besoin de garder notre hôpital de proximité, quand même, c'est incroyable, et des soins d'urgence. Est-ce que les élus débattent également de ce sujet? Que pensez-vous de cet avenir? Est-ce possible de l'envisager?
Alors, le sujet est vaste et regroupe beaucoup de domaines, il me semble. Le premier qui me vient vraiment à l'esprit, c'est que, et qui est vraiment en lien avec ce qui fait que je suis là aujourd'hui, et qu'on ne peut pas dissocier le PLUIH du PCAET. Alors, PCAET, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Plan Climat, Air, Énergie, Transition. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, la santé environnementale est une question primordiale par rapport à ce que vous venez d'exposer. L'explosion démographique qui se profile, on n'y échappera pas. Voilà, on sait qu'il y a une pression très forte, Nord-Toulousain. On est dans un axe qui, quoi qu'il en soit, va se développer très fortement. Ça va donc au-delà de la communauté de communes Terre des Confluences. Ça va aussi concerner le Grand Sud Tarn-et-Garonne et l'agglomération de Montauban. Et c'est pour ça que ce qui est important aussi, c'est que certes, il faut défendre l'hôpital de proximité que le centre hospitalier intercommunal Cassel-Moissac, mais la question qui est sous-jacente, c'est aussi la défense du groupement hospitalier de territoire qui va aussi intégrer au niveau de Bressot ou pas loin de cette zone-là,
le futur hôpital,
voilà, et qui donc est l'hôpital centre qui gère le GHT du Tarn-et-Garonne auquel appartient donc le CHIC, le centre hospitalier intercommunal Castelmoissac. Et dans les connexions qui se feront plus tard aussi entre ces deux centres hospitaliers, il est très important de travailler ces connexions-là. Quoi.
Je n'ai pas prévu de rater plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP a chopé. Je me suis remis à choper.
Quand on commence à parler de Bressol,
on sait que le centre hospitalier de Montauban a choisi la zone proche de Bressol, une zone entre Bressol et pas loin de la future sortie d'autoroute de la Cour Saint-Pierre pour s'installer. Voilà.
D'accord, d'accord. Ah ben pour moi, ça, en tous les cas, ça m'apprend pas mal de choses.
Non.
Et vraiment, je suis ravie d'être avec vous parce que finalement, c'est un petit peu brouillon tout ça pour nous, citoyens lambda. Et quand on parlait justement, d'un futur hôpital, l'hôpital de Montauban et toutes ses difficultés, et qu'il a aussi, sans compter toutes les difficultés de Moissac aussi. Donc, je veux dire, on va pas retirer à Paul pour mettre à Pierre, on va pas retirer à Pierre pour mettre alors maintenant à l'autre hôpital. Comment ça se passe? Est-ce que ça reste bien dans le cadre des nouveaux projets de loi, donc de la loi 2022, la continuité de 2017 à 2017-2018, la loi santé, où il y avait donc développé les consultations avancées, créé des postes assistants partagés, généralisé le contrat de médecin adjoint, mais aussi de partager ses hôpitaux. Est-ce qu'on est là-dedans?
Alors, on est là-dedans, sauf que c'est trop tôt.
Ah.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre hospitalier de Montauban comme le centre hospitalier de Cassel-Moissac sont au travail de projets médico-soignants. Voilà, ils sont dans l'élaboration de ces projets. En vue d'envisager, je sais pas, il me semble, quoi qu'il en soit, ces synergies-là qui seront nécessaires.
Et ça commence à se faire sur les actes de prévention, par exemple. Alors, c'est vrai que c'est plutôt embêtant pour le citoyen, en tous les cas pour les femmes. Par exemple, pour la mammographie, on peut passer la mammographie à Moissac, mais la lecture se fait à Montauban.
Oui, mais ça, pour moi, c'est un autre problème.
C'est un autre problème. Mais ça fait partie aussi.
Oui.
Moi, j'essaye de m'adresser... j'essaye de penser, pour nous, citoyens, où on en est aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut aller vers Montauban aussi. On va à Montauban, on a aussi des docteurs qui viennent, qui travaillent à Montauban et à Moissac.
Ce qu'on n'a pas des consultations avancées.
Les consultations avancées. Et quand il y aura le futur hôpital, ce sera pareil. On rajoutera des consultations.
Ça ne m'appartient pas. Ça appartient au projet médico-soignant qui doit être élaboré, validé par les CME. Donc voilà. Donc de chaque hôpital. Enfin voilà.
D'accord.
Mais quoi qu'il en soit, cela fait partie des projets de stabilisation de l'offre de soins en santé publique du territoire.
D'accord. Bon, c'est plutôt rassurant.
Si tout se passe comme il faut, oui.
Oui, parce que pour l'instant, on est dans une période encore où il ne se passe pas vraiment grand-chose. On a plutôt des manques sur Moissac et sur nos 22 communes. Pour l'instant, ce n'est pas gagné.
Alors, qu'il y ait des manques en médecine générale, comme sur les termes des spécialités, ça ne concerne pas que... Voilà, on est concerné, mais ça ne concerne pas que nous. Par contre, effectivement, je trouve que la dynamique qui a été impulsée est positive. On parlait, il me semble, en introduction, des difficultés à trouver un ophtalmologiste. Il me semble qu'il y a un projet avancé sur Cassel-Sarrazin pour que se mette en place une offre de soins, de consultation. Moi, ce que je trouve, la dynamique qui est impulsée sur le territoire. Moi, je la trouve intéressante. Après, effectivement, l'avantage d'avoir un contrat local de santé, c'est-à-dire c'est une contractualisation entre la communauté de communes et l'ARS, et puis des partenaires qui sont multiples. Hein, voilà, enfin, on ne peut pas tous les citer, mais que ce soit la CPAM, que ce soit les centres hospitaliers, que ce soit la MSA, qui sont présents. Ils vont nous accompagner sur des dispositifs de prévention d'accès aux soins pour la population, les populations précaires et autres. Et ça, c'est un dispositif, le contrat local de santé, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant, mais qui demande une confiance extrême entre l'ARS et les opérateurs de la communauté de communes.
Oui, je comprends bien. Et les financements aussi, je pense qu'ils passent par où ? Par eux ?
Alors, le financement au niveau gestion du CLS, du contrôle local de santé, c'est le financement d'un mi-temps d'une coordonnatrice, d'un coordonnateur.
D'accord.
Mais après, c'est quand même aussi faciliter des actions de prévention et de sensibilisation de la population sur le territoire.
Oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est en cours.
Ça existe.
Ça existe.
Ça, c'est là au niveau le CLS, on est sur l'élaboration du CLS version 2.
D'accord. Bon, c'est plutôt encourageant. Parce que tout citoyen comme moi est en droit de s'interroger sur sa sécurité et sur sa santé. Mais après la fermeture de la maternité, donc en 2003, de la maternité à Moissac, à l'hôpital Castel-Moissac, puis celle des urgences de nuit cet été, se rajoute alors, bien sûr, ce manque de médecins, de spécialistes. Et nous sommes tous en droit aujourd'hui d'exiger de nos politiques qui nous représentent et que nous avons élus pour mettre en place des moyens, justement, pour... Et nous devons exiger, à leur tour, le maintien de ces services. Comment pourrions-nous faire, nous, en tant que citoyens, pour exiger cette mise en place de tous ces services auxquels nous n'avons plus droit aujourd'hui? Oh, je vois que ma question ne vous fait pas sourire.
Non, c'est pas du tout. C'est que je ne sais pas si je peux y répondre, je ne pense pas pouvoir
Bien
y répondre.
Sûr.
Voilà, de mon prisme de conseiller délégué. Par contre, ce que je sais, c'est que cela fait longtemps que l'on s'inquiète sur cette question-là, précisément, qu'on a mis en place un dispositif. Alors ça, c'était plus, ça ne concernait pas les 22 communes, mais ça concernait moins de communes, mais sachant que c'est quelque chose qui voit se développer, qui s'appelle le Centre Santé Publique, sachant que le Centre Santé Publique, qui est une association, qui est l'association du canal à la Rhône, qui regroupe 3 communes, Saint-Porquier, la Ville de Dieu et Castelsarrasin, ont rejoint le groupement d'intérêt public mis en œuvre par Carole Delga au niveau de la région. Et en fait, la question de l'attractivité rejoint aussi cette question du GIP, c'est-à-dire que si via l'attractivité et que nous allons pouvoir faire, et nous espérons faire venir des médecins généralistes qui seront recrutés par la région.
Oui.
Et ça, c'est une dynamique dans laquelle on sait déjà, on y est dedans, quoi. Voilà, on est inscrit dedans et on veut inclure d'autres communes, des plus petites communes de la communauté de communes, dans ce dispositif-là. Mais sachant que la question, ce qui est intéressant dans le GIP, c'est que certes, c'est la question des médecins généralistes, mais pas que. C'est-à-dire que ça peut permettre, dans certains endroits qui sont vraiment totalement défavorisés, d'aller chercher des infirmiers, des paramédicaux, des infirmiers, des kinés. Voilà, il se pose vraiment la question de recruter des infirmiers en pratique avancée aussi. Donc, les infirmiers en pratique avancée sont des infirmiers qui ont quand même certaines délégations au niveau médical, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment accompagner le médecin, surtout sur le suivi des patients qui ont des pathologies chroniques, c'est vraiment intéressant. Et du coup, moi, je trouve que ça donne beaucoup plus de sens à la téléconsultation.
Oui, et d'autant plus que ça va être appuyé par M. Braun, le nouveau ministre de la Santé, sur justement de pouvoir faire intervenir des infirmiers pour certains soins qui étaient donc faits par des médecins.
Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle la régénérie, c'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y a des aides-soignants qui peuvent aussi pratiquer des actes qui étaient dédiés
réservés aux
infirmiers jusqu'à présent. Voilà, et puis donc en fait maintenant il va y avoir des actes qui étaient réservés effectivement aux médecins qui pourront être délégués aux infirmiers en pratique avancée. Ça, c'est des dispositifs.
Oui.
J'ai le droit de rajouter quelque chose parce qu'en fait on entérine une situation qui existe très souvent à l'hôpital. C'est-à-dire que les aides-soignants font des actes qui normalement devraient être faits par des infirmières ou des infirmiers. Les infirmiers font des actes qui normalement devraient être faits et non pas dans le but de nuire hein, du tout. C'est juste que l'investissement du personnel fait que plutôt que de laisser...
Je voulais simplement apporter une correction, si on peut le dire comme ça, à ce que vous venez de dire, dans le sens où, en fait, il n'y a pas de glissement de tâches à l'hôpital. Il y a mise en œuvre de protocoles qui sont validés par la cellule qualité, par les médecins. Voilà, donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je vois et je connais les choses.
Oui, voilà, essayons quand même de rester confiants
oui,
avec le personnel.
Il était bon de le préciser, voilà. des choses qui peuvent choquer un patient sont tout à fait dans le cadre d'un protocole dont nous n'avons pas connaissance.
Et finalement, je repense à l'hôpital et à tous ces infirmières, à tout ce personnel soignant qui finalement, des fois, se retrouvent acculés par les tâches et font leur boulot relativement admirablement.
Ah, totalement,
moi, franchement, je suis toujours en admiration devant du personnel. Bon, moi, j'ai passé une mammographie il y a pas longtemps, vraiment, donc à Montauban, avec un personnel absolument adorable qui nous explique tout, qui va et reprend et le docteur et on va refaire ceci et toujours en vous rassurant. Je pense que ça, c'est important de prendre ce temps-là. Juste une petite question, Monsieur Prévedello. Justement, ce qui m'inquiète un petit peu, excusez-moi, par rapport aux médecins qui viennent justement dans ces maisons de santé compléter une équipe, eh bien souvent, on se retrouve avec des médecins qui étaient à la retraite et qui reviennent sur le terrain. Et sont-ils, eux, salariés? Comment ça se passe pour eux? Vous savez, vous, pour eux?
Je le sais très bien.
Oui, c'est très bien, mais je trouve que d'avoir aussi une équipe un petit peu plus jeune, je trouve que... Moi, la dernière fois, j'ai quand même vu un médecin qui était bien fatigué et qui pensait pas avoir une retraite comme ça.
Alors, je sais pas.
Justement, sur la ville de Dutemple.
En général, c'est des choix qu'ils font.
Non, je vais parler. Donc, la ville de Dutemple, vous en parlez, je ne suis pas au courant, vraiment. Qui est exactement. Comment ça, voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, effectivement, nous avons mis en œuvre, il y a quelques mois de soi, ou années, bientôt, là, un centre de santé. En recrutant ce que nous on appelle les papidocs, tout simplement. Donc en fait, ce sont des jeunes médecins retraités papidoc. Qui acceptent de rempiler sous le mode du salariat. En fait, l'objectif était clair. C'était de recruter des médecins retraités pour amorcer une dynamique et essayer d'aller recruter des médecins généralistes, salariés, directement ou via le GIP de la région, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mmh. Voilà. Donc, effectivement, vous dites que des médecins ne voyaient pas leur retraite comme ça, mais quand même, ce qu'on ressent aussi, c'est qu'ils ont quand même toujours du désir pour continuer à soigner, être auprès d'une patientèle, et surtout, moi, ce que je remarque, c'est d'une façon différente. C'est-à-dire que lorsque j'interroge les médecins du centre de santé, ils ont exercé en libéral pendant X années, ils ont pris leur retraite, ils ont un autre mode de fonctionnement, et en fait, ils s'y retrouvent. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus qu'à s'occuper de la personne qu'ils ont en face, du patient, de l'usager, on l'appelle comme on veut, voilà. Il n'appelle pas client, généralement, en tout cas, et ça, c'est bien. Et ça, je trouve ça intéressant, quoi. En fait, ils ne sont que sur leur cœur de métier. Mmh. Et vous avez raison, hein, voilà, ils ont un certain âge, oui, c'est une réalité. Mais... ils sont motivés et en plus, ils sont prêts à transmettre si ils sont tuteurs de stage, si on arrive à recruter des internes.
Voilà, alors justement.
La transmission.
Si jamais, on arrive à recruter des médecins pour le JP. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'enveloppe, elle est prête.
Mm-hmm. D'accord.
D'accord, voilà. Mm-hmm. Et c'est ce que vous voulez. Mmh. C'est ce qui a fait qu'avec le maire de la ville de Dieu, Dominique Briouat, ou le maire de Cassès-Sarrazin, Jean-Philippe Béziers, on s'est associés. C'était surtout sur cette question-là, quoi. Et on a voulu vraiment mettre en place cette dynamique en se disant, bon, ok, on n'y arrive pas à faire venir des médecins, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On n'a pas envie de dépenser des 100 et des 1000 pour leur dire, venez vous installer, voir des choses qu'on a pu voir sur d'autres territoires, quoi. Ça ne nous intéressait pas. On a dit, on va prendre ce dispositif-là. On sait que c'est un risque, attention, voilà, on le sait. Mais quand même, aujourd'hui, on se dit que c'est un bon dispositif, mais que dans le sens où derrière, on a quand même le groupement d'intérêt public de la région qu'on est en train d'intégrer là actuellement, qui nous suit et qui va pouvoir nous permettre de basculer vers des médecins plus jeunes.
Plus jeunes, voilà.
Alors justement, pour corriger, moi je suis patient d'un centre de santé, pas d'une maison de santé donc, qui n'est pas à côté, hein, c'est à Montèche. Et c'est l'inverse, c'est que très souvent, comme ma médecin est maître de stage, j'ai très souvent des jeunes. Et là, c'est l'inverse, j'ai pas de vieux, quoi.
Ah oui, mais ce sont sans doute des étudiants encore, non, qui viennent compléter l'équipe ou pas?
On va me corriger encore.
Monsieur Prévedello. Reprenez-nous.
C'est une maison de santé, alors.
C'est une maison de santé. De centres de santé, aujourd'hui...
Il n'y en a pas en Tarn-et-Garonne.
Si. Il y en a. Il y a celui du canal à la Rhône, et celui de Castelsarrasin de la Passe. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont en train de se constituer. Molière, peut-être, de mémoire. Voilà. Mais Montech.
C'est une maison de santé.
C'est une maison de santé, dynamique.
Ah, sacrément. Et puis.
Avec des médecins qui sont tuteurs de stage, qui ont su. Montrer l'attractivité du territoire pour le coup, quoi. Vraiment, voilà. Mm-hmm. Et donc, en fait, voilà. D'où. Vous êtes. Voilà. Donc, vous dites. Ce sont des jeunes internes qui vont s'occuper de vous, ou des médecins juniors qui après vont venir s'installer sur le bassin. Quoi.
Mmh. Oh oui, parce que j'y vois aucun inconvénient. Hein. Moi, ça ne me pose aucun problème. Hein. J'ai toujours été très bien traité. Ouais. Bon, j'ai fait le choix d'aller loin comme ça parce que c'est pour la médecin que je voulais absolument. Mmh. Voilà, où on est en accord sur les visions de la médecine. Mais parce que je me suis retrouvé sans médecin à Moissac, puisque mon médecin a pris sa retraite.
Ce que vous dites montre bien comment on veut développer l'offre de soins sur la communauté de communes, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes allé dans une maison de santé, voilà, sur un dispositif qui est efficace, qui rend attractif, et qui fait qu'en fait, des jeunes médecins généralistes viennent s'installer. Mm-hmm. Mais ils sont libéraux.
Oui, je le sais très bien. Oui.
Mais tant mieux. C'est-à-dire que là-bas, c'est un dispositif qui fait, en fait, ils collaborent. La maison de santé de Montech. Vous avez des kinés, des psychologues, orthophonistes. Mm-hmm. Vous avez quand même.
Oui, absolument.
C'est Saint-Nicolas de la Grave aussi, d'ailleurs, non? Parce qu'il y a aussi. Le docteur nommé est appuyé aussi par des étudiants en fin de cycle.
C'est-à-dire que là, il y a vraiment. Il y a une offre de soins globale à Montech qui est quand même pratique. Oui. Et en plus, sur un parking de supermarché. Enfin, j'exagère en disant sur un parking de supermarché, mais c'est quasiment le cas, quoi.
Ouais, mais c'est quand même des
mais non, mais je pense que c'est attractif.
Ce sont des locaux agréables.
Ah ouais, parfaitement. Il y a qu'une. Voilà. J'ai une énigme. Je sais toujours pas comment ils font pour tondre dans la pelouse à un endroit. À chaque fois que j'y vais, je me dis, il y a aucun accès. Ça veut dire que le gars, il passe la tondeuse par dessus la barrière.
Quand on est là, c'est qu'on est bien soigné quand même.
Oui. Ah non, mais j'ai fait ce choix de médecin et je sais que je suis très bien soigné. Voilà.
Monsieur Prévedello, je vous remercie de votre intervention, d'être venu à Radio Doc pour nous parler de tout ça, parce que beaucoup d'interrogations et puis un manque de connaissances des citoyens par rapport à une situation, parce que tout ça c'est par des oui-dire, on raconte beaucoup de choses, mais finalement, voilà. Donc, moi j'en appelle à tous les citoyens, restons tous mobilisés pour sauver notre système de soins. Notre hôpital Castel-Moissac aussi. Alors pourquoi Castel-Moissac? Je voudrais dire Moissac-Castel parce qu'il est à Moissac déjà, mais bon, je ne sais pas, l'ordre est important de le dire. Les élus ont-ils besoin de nous, des citoyens comme nous?
Alors justement, je pense que la conclusion, c'est pas que les élus ont besoin de citoyens comme vous, c'est que les élus ont besoin, et quoi qu'il ait, mais le soin a besoin des usagers.
Oui.
L'usager est au cœur du dispositif.
Voilà, exactement.
Donc,
remettons-le au cœur de ce dispositif, tout à fait.
Voilà, je crois qu'on a tout. Enfin, en disant ça, on dit tout. Voilà.
Oui. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, on verra le sujet qui pourrait être abordé. Le comité de défense de l'hôpital de Castel-Moissac, du CHIC, Castel Intercommunal. Je vous dis à la semaine prochaine.